Nicolas Daupouillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français du Proche-Orient de Beyrouth et auteur avec Wissam Alage et Eugénie Rebia de l'ouvrage « De la théologie à la libération, histoire du djihad islamique palestinien » aux éditions La Découverte. Alors Nicolas Daupouillard, on était très loin hier à Gaza de la précédente commémoration de la mort de Arafat. C'était il y a 10 ans. Ça s'était terminé dans la violence entre le Fatah et le Hamas. Alors est-ce que cette unité affichée aussi massivement hier vous a tout d'abord surpris?
Non, c'est absolument pas surprenant, puisqu'effectivement, il y a aujourd'hui un accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah, donc effectivement qui était divisé depuis 2007. Cet accord de réconciliation, on attend de voir un peu comment il va s'appliquer au niveau de la constitution des services de sécurité, la question des nominations de fonctionnaires, hein, parce que tout ça va discuter entre le Fatah et le Hamas, mais les deux mouvements ont une volonté effectivement d'afficher une unité nationale, et hier le fait que le Fatah majoritairement et pu tenir ces commémorations d'hommage à Yasser Arafat, hein, effectivement, ces commémorations qui ne pouvaient pas se tenir ces dernières années, c'est effectivement un geste notamment du Hamas, hein, puisque le Hamas, non seulement certains de ses membres ont pu participer aux manifestations d'hier, hein, ils avaient tout à fait le droit de le faire, mais surtout il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucun membre de Hamas qui a empêché des gens partisans de Fatah de commémorer la mort de Yasser Arafat. Donc c'est absolument pas surprenant. Par contre, effectivement, se pose la question après de l'application concrète de ces accords de réconciliation.
Alors justement, ce n'est pas le premier accord. Il y a eu plusieurs ces dernières années qui n'ont débouché sur rien. Pourquoi celui-ci aurait plus de chances d'aboutir ?
Alors pour le moment, cet accord, disons, a été signé et a peut-être des chances d'aboutir parce que d'abord il y a une grande pression égyptienne. Les Égyptiens ont une diplomatie affaiblie dans la région ces dernières années, mais pour eux le dossier palestinien leur permet quand même un peu de se poser un peu comme un médiateur et un diplomate important dans la région, notamment aux yeux des Américains, notamment aux yeux des Occidentaux. Donc il y a une véritable volonté égyptienne d'abord de faire aboutir ces accords. Deuxièmement, ces accords ont fonctionné parce que les Égyptiens ont des liens profonds avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Ils ont des liens également avec le Fatah de Mohamed Dahlan. Mohamed Dahlan est un leader, un ancien leader du Fatah, aujourd'hui exilé aux Émirats Arabes Unis, qui a beaucoup de problèmes avec le président Mahmoud Abbas, mais qui a aussi des liens avec les Égyptiens. Donc les Égyptiens ont des liens avec les deux Fatahs, je dirais. Et les Égyptiens se sont aussi réconciliés avec le Hamas. Donc les Égyptiens actuellement peuvent discuter avec tous les accords, avec tous les acteurs, pardon, et pour autant le Fatah de Mahmoud Abbas que les partisans de Dahlan, que les partisans du Hamas, ils les poussent effectivement à un accord. Donc je pense que la pression égyptienne est quelque chose de réel.
Et l'Égypte qui s'impose donc à nouveau comme un acteur essentiel dans cette région, est-ce qu'il y a d'autres intentions peut-être du Caire? Certains disent qu'ils ont peut-être des projets d'enrôler le Hamas dans les efforts pour réprimer l'insurrection du Sinaï. Est-ce que c'est pensable?
Je pense que la réconciliation entre l'Égypte et le Hamas avait de toute façon une seule condition, c'était que le Hamas prenne ses distances avec les frères musulmans égyptiens. Hein. C'est quelque chose de fait, je pense, depuis un an et depuis l'adoption de la nouvelle charte de Hamas où effectivement le Hamas ne se réclame plus officiellement des frères musulmans, même si au niveau, bien sûr, du background intellectuel, de son histoire intellectuelle, il est lié aux frères musulmans, mais il prend ses distances en tout cas avec les frères musulmans égyptiens. Ça, c'était une condition sine qua non des Égyptiens. Effectivement, les Égyptiens comptent sur le Hamas pour mieux contrôler les frontières, mieux contrôler la frontière de Rafah, et effectivement pour contrôler l'émergence de groupes salafistes, djihadistes, qui sont la principale menace officielle pour le gouvernement égyptien.
Alors le Hamas et le Fatah sont donc réconciliés sur le papier depuis quelques semaines, mais vous l'évoquiez il y a une minute, il reste des divisions au sein du Fatah. Vous parliez de Mohamed Dahlan, les choses ne sont pas du tout pour l'instant en tout cas arrangées au sein du Fatah.
Non, le Fatah est un parti profondément divisé. Hein. Mahmoud Abbas est effectivement à la tête de cette organisation, tout comme il est à la tête de l'autorité nationale palestinienne et de l'organisation de libération de la Palestine. C'est quand même quelqu'un qui cumule 3 postes depuis de longues années. Et c'est vrai qu'il est très critiqué au sein du Fatah et que ces dernières années, beaucoup de cadres du Fatah, des hauts cadres, des députés également, ont rejoint Mohamed Dahlan, hein, qui est un ancien responsable des services de sécurité à Gaza, qui était un proche par ailleurs de Yasser Arafat. Arafat pendant de longues années. Mohamed Dahlan aujourd'hui est exilé aux Émirats Arabes Unis, mais il pèse beaucoup dans la bande de Gaza. Et dans la bande de Gaza, c'est aussi ce qu'il faut prendre en compte, la situation est un peu difficile parce qu'en fait le Hamas doit se réconcilier avec le Fatah du président Mahmoud Abbas, mais il doit aussi se réconcilier avec le Fatah de Mohamed Dahlan, qui est particulièrement implanté dans la bande de Gaza, Mohamed Dahlan étant lui-même originaire de la bande de Gaza.
La situation difficile à Gaza, notamment sur le plan humanitaire, il faut le rappeler, hein, dans l'enclave palestinienne, puisque la population vit dans des conditions de plus en plus insalubres à Gaza. On va parler d'un autre pays qui s'est beaucoup impliqué dans cette réconciliation, ce sont les Émirats Arabes Unis. Quel rôle concrètement ont-ils joué dans cette opération de rapprochement ?
Bah, grosso modo, les Émirats Arabes Unis parrainent très clairement Mohamed Dahlan. Et ils ont poussé ces 2-3 dernières années, ils ont un peu poussé Mohamed Dahlan effectivement à un accord de réconciliation avec le Hamas. Ce qui était tout à fait inédit, puisqu'il faut savoir que Mohamed Dahlan, dans la bande de Gaza, lorsqu'il était responsable des services de sécurité, était notamment en charge, fin des années 90, début des années 2000. C'était quand même quelqu'un qui était en charge de la répression envers le mouvement Hamas. Quelqu'un qui avait fait arrêter beaucoup de cadres du mouvement Hamas. Donc les relations entre le Hamas et Mohamed Dahlan étaient particulièrement difficiles. Là, Mohamed Dahlan et les Émirats Arabes Unis ont tenté un coup politique. Ils se sont rapprochés du Hamas. Ils essayent de concurrencer très clairement le président de l'autorité nationale, Mahmoud Abbas. Les ambitions de Dahlan sont claires, elles ne sont pas du tout cachées. Dahlan a comme ambition très clairement d'arriver à la tête de l'autorité nationale palestinienne, et de remplacer Mahmoud Abbas à l'avenir, puisque Mahmoud Abbas est quand même un homme vieillissant qui, un jour, bien sûr, devra passer la main à la tête de l'OLP, de l'autorité nationale palestinienne et du Fatah.
Merci beaucoup, Nicolas Dupouillard, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth et auteur, avec Wissam Alhaj et Eugénie Rebillard, de l'ouvrage De la théologie à la libération, histoire du djihad islamique palestinien. C'est paru aux éditions La Découverte.